إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإخوتي في الله، نتابع دروسنا فيما يتيسر من شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ سليمان ابن عبد الله القصير حفظه الله. طيب، وقد توقفنا عند كتاب الجنائز بحمد الله عز وجل. أخانا فاروق ذكرنا بأركان صلاة الجنائز.
النية.
النية، لا، النية ليست من أركان صلاة الجنازة. النية قد تكون من شروطها، لأنها خارجة منها.
الفاتحة.
نعم، قراءة الفاتحة. نعم، قراءة الفاتحة ركن من أركان صلاة الجنازة لأنها داخلة فيها. نعم.
صلاة النبي.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسنت.
تكبيرات.
تكبيرات، جميع التكبيرات. نعم. كم من تكبيرات؟ كم؟
أربعة.
أربعة. نعم، أربعة. نعم.
تسليم.
نعم، تسليم. سلام.
دعاء.
دعاء لمن؟
للموت.
نعم، الميت. هذا للموت. الميت. الدعاء للميت. نعم. أخي، رست البيلي. vous avez noté un peu, je suis sûr vous avez noté. هادي أخي،
رست البيلي.
أحسنت. القيام مع القدرة، celui qui est capable bien sûr de la faire debout. Donc celui qui est capable d'être debout mais reste assis, il prie assis, yani, sa prière n'est pas valide. Sa prière, yani, funéraire, n'est pas valide. Donc on a cité là les six conditions, on les a rappelées, qui sont donc, on commence par justement le fait de se tenir debout, al-qiyam al-qudra. Deuxièmement, dans l'ordre c'est mieux, deuxièmement, yani, takbirat, tous les takbirat, que ce soit le premier ou les suivants. Donc on a dit ces quatre, mais il se peut que de temps en temps tu en fasses plus. Tu as le droit. 5, 6, 7, 9. Comme cela a été rapporté de manière authentique. D'accord. Troisième, al-Fatiha. Quatrième, as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cinquième, les invocations en faveur du mort. dernièrement, il y a né là, le salam. Le salam. D'accord? On avait dit le salam, est-ce qu'on peut le faire une fois?
Une fois.
Le mashrou' huwa marra wahida. Ce qui est légiféré, c'est une fois. Mais il n'y a pas de mal à le faire deux fois. Il n'y a pas de mal, surtout que Ibn Mas'ud radiallahu anhu a rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il faisait donc le même taslim dans la prière de Janaza que dans la prière normale. On comprend par là qu'il faisait deux aussi. Un ou deux. Al-Muhim, et cela est permis. D'ailleurs,
l'intention, ça ne peut pas partir.
L'intention, il a dit tout à l'heure, mais ce n'est pas un pilier. C'est une condition. En fait, la différence entre le pilier et la condition, c'est que la condition, elle est extérieure à la prière. C'est-à-dire que l'intention, tu dois la mettre avant d'entrer en prière. Okay. Alors que les piliers, c'est des choses qui sont incluses dans la prière, à l'intérieur.
Tous les
takbirat,
ça doit se faire à voix basse.
Pour les fidèles, oui. Pour les fidèles, tu fais takbirat à voix basse. D'accord ? Même dans la prière normale, en vérité, même la prière normale, les fidèles ne font pas avoir haute takbirat. Il n'y a que l'imam qui fait avoir haute takbirat.
D'accord.
Non. Mais pendant la salat de janaza, même l'imam, il peut faire à voix basse. Taïeb, il peut faire à voix basse. Ou alors il peut faire entendre seulement ceux qui sont derrière lui. Parce que la prière de funéraire, à la base, elle est silencieuse. C'est vrai que, tu vois, elle est silencieuse. On ne récite pas à voix haute, par exemple. Le Fatiha, tu ne la fais pas à voix haute. Tu fais tout à voix basse. Soit l'imam ou le fidèle, le ma'moum. D'ailleurs, et dans tous les cas, le ma'moum, il fait tout à voix basse. D'ailleurs, non. Même le salam, on avait dit que le salam, l'imam, lui, il fait salam. S'il veut, il fait salam à voix basse. À voix basse, les gens, là, quand ils verront son visage se tourner, ils sauront qu'il a terminé sa prière. D'accord. Taïeb. Et pour le takbirat, bien sûr, il fait entendre l'imam, fait entendre son takbir, afin que les ma'mouns puissent le suivre. D'accord. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم إذن هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الحديث يندب إلى كثرة المصلين على الجنازة أو على الجنازة فكلما كانوا أكثر كلما كان المصلون أكثر كان ذلك أقرب إلى أن يغفر له ويشفع فيه وقوله رجل ليس قيدا إنما هو وصف غير مراد أي بمعنى مسلم فتدخل فيه المرأة كذلك طيب لأن النساء كن يصلين على الجنازة كما في حديث عبادي ابن عبد الله ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه تصلي عائشة على سعد بن أبي وقاص فأنكر الناس ذلك عليها أي أنكر ماذا؟ أنكر أنها قد صلت في المسجد صلت صلاة الجنازة في المسجد فقالت ما أسرع ما نسي الناس ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد أخرجه مسلم donc il dit l'auteur rahimahullah ta'ala que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit il n'y a pas un homme d'accord donc un homme qui meurt et sur lequel prient sur lui 40 personnes qui n'associent rien à Allah tabarak wa ta'ala sans que Allah tabarak wa ta'ala leur permette d'intercéder pour lui. D'accord ? Donc le hadith rapporté par Muslim. Donc il dit le shaykh Al-Qusayr, hadith rapporté par Ibn Abbas. Et ce hadith donc va encourager justement à ce que le nombre des prieurs qui prient sur le mort soit le plus grand possible. D'accord ? Et ce hadith nous montre que plus il y a de prieurs pendant cette prière-là, et plus cela facilitera yani, le fait qu'Allah Jalla wa Ala lui pardonne. D'ailleurs, et facilitera le fait qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala autorise l'intercession à ces gens-là pour en faveur du mort. D'accord ? Imaginez-vous celui qui meurt à Mecca maintenant. Subhanallah. Hein, le nombre de gens qui prient sur le mort. Allah va. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Rajul, Rajul c'est un homme, d'accord ? Textuellement c'est un homme. Mais ici, ce qui est voulu, ce n'est pas le sexe de la personne, mais c'est plus une personne de manière globale, générale. Dans le sens, un musulman, que ce soit une femme ou un homme, il y a un musulman. D'accord ? Donc dans plusieurs hadiths, il se peut qu'il utilise le mot Rajul, mais pour désigner en vérité un être humain, quoi. Personne, croyante, musulmane. D'accord ? Aussi également parce que les femmes prient également sur le mort. Comme cela nous a été rapporté, notamment dans le hadith d'Abbad ibn Abdullah ibn Zubayr, qui a dit qu'Aïcha, radiallahu anha, un jour, elle a ordonné que l'on amène le mort, à l'époque c'était donc Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, à la mosquée afin qu'elle prie sur lui. Et donc ils ont amené le corps, ils l'ont mis dans la mosquée et elle a prié sur lui. Donc cela prouve que la femme peut faire aussi la prière funéraire. D'accord ? Et lorsque certains sahaba ont désapprouvé cela. C'est-à-dire ils ont désapprouvé le fait que elle fasse cette prière-là dans la mosquée. Ils n'ont pas désapprouvé qu'une femme fasse la prière, c'est pas ça. Ils ont désapprouvé le fait qu'elle le fasse dans la mosquée, à l'intérieur de la mosquée. Et là, qu'est-ce qu'elle a répondu ? Elle a dit, les gens, dans le sens, hein, les gens oublient vite. D'accord ? Comme les gens oublient vite. Puis elle a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a prié sur Suhail ibn al-Bayda que dans la mosquée. D'accord ? C'est-à-dire que elle leur a rappelé qu'un jour, le prophète a prié sur un mort dans la mosquée, sur un compagnon dans la mosquée. D'accord ? Donc après, les ulama, ils ont dit, même si la priorité est de la faire en dehors de la mosquée, dans une musalla, un local ou une salle exprès pour ça, cela n'interdit pas non plus de la faire dans la mosquée. C'est pas interdit. D'accord ? Mais la priorité est de la faire dans une musalla ou à l'extérieur. Mais les deux sont permis, alhamdoulilah. C'est bon les frères ? Thumma yaqul wa qala ay sallallahu alayhi wa sallam man shahida al-jinazata hatta yusalla 'alayha falahu qirat wa man shahidaha hatta tudfan فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه وهذه رواية. يقول هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وفي الحديث حث على صلاة الجنازة وتشيعها حتى تدفن، وهذا من حق المسلم على أخيه، خصوصا إذا كان من أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه ونحوهم، لأن اتباع الجنائز وتشيعها مما يشيع المودة والتعاون بين المسلمين. في يجي الوتاخ رحمه الله تعالى شيخ سعدي que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui assiste à al-janaza, c'est-à-dire au cortège, à la préparation, etc., etc., jusqu'à ce qu'il prie sur le mort, il a un qirat. Il a un qirat. On verra c'est quoi un qirat. Ce mot-là, de la langue arabe, on pourrait traduire par un kara. Pourquoi ils traduisent comme ça un kara aujourd'hui? Un qirat. À l'époque, ça équivalait à un douzième d'un dirham. Un dirham, c'était de l'argent, d'accord, qui avait une certaine valeur. Et donc, un qirat, c'était un douzième d'un dirham. Et un vingtième d'un dinar. Ça, c'était à l'époque. Un qirat, c'est ça, un qirat. D'accord? Mais là, ce qui est voulu dans le hadith par qirat, c'est pas ça. Parce qu'on a d'autres versions qui sont venues justement exposer la valeur de ce qirat. Qu'est-ce que c'est ce qirat? Quelle est sa valeur? Puis il dit, et celui qui y a assisté, c'est-à-dire la préparation, le cortège, etc., jusqu'à ce que le mort soit enterré, eh bien il a deux qirat. Il a deux qirat. D'accord? Donc le premier, il a prié, il a suivi le cortège, il a prié, il a un qirat. Celui qui a suivi, prié et suivi le mort jusqu'à ce qu'il soit enterré, lui, il a deux qirats, jusqu'à l'enterrement. D'accord? Puis ils ont demandé, c'est quoi les deux qirats? Qu'est-ce que c'est? Il a dit, c'est l'équivalent de deux immenses montagnes. Deux grandes montagnes. Bon, le hadith, il est authentique. On le trouve dans Sahih Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira. Et dans ce hadith, on a donc l'incitation et l'encouragement à prier sur le mort. Hein? Même si tu ne connais pas la personne, tu entends parler, tu entends, Yannick, qu'une prière funéraire va s'accomplir à tel et tel endroit sur un musulman. Si tu peux y aller, c'est bien d'y aller. C'est une grande récompense. D'ailleurs, et en plus, tu vas pouvoir aussi bénéficier à la personne qui est morte en évoquant pour elle, et inshallah, en étant la cause qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonne, hein, et qu'Allah te permette d'intercéder pour lui aussi. D'ailleurs. Donc, l'incitation non seulement à prier sur le mort, mais aussi à suivre le cortège funéraire. Et cela fait partie du droit du musulman sur son frère. Donc les musulmans sont tous frères les uns pour les autres. Donc fait partie des droits du musulman pour son frère musulman, eh bien c'est qu'il suit son cortège après sa mort, qu'il prie sur lui après sa mort, qu'il invoque pour lui après sa mort. D'accord? Et plus particulièrement, bien sûr, si la personne qui est morte fait partie de ses proches, de ses frères, de ses voisins, de ses amis, taïeb, bien sûr, ce droit-là sera encore plus fort et affirmé. Car le fait de suivre le cortège funéraire, de prier sur les morts, propage et diffuse l'amour, l'affection et l'entraide entre les musulmans. L'entraide entre les musulmans, alhamdoulilah. وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وشفاه يقول قد جاء بيان حجم قيراط في روايات بأنه مثل جبل أحد، مثل جبل أحد، وهذا شيء عظيم، ها؟ شيء عظيم. قالوا معنى هذا أن الأعمال تجعل أجساما، الأعمال تجعل أجساما وتوضع في الميزان. طيب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل جبل أحد، أو هنا مثل الجبلين العظيمين، أي في العظم والضخامة. طيب. نعم. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة يرويه قال صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، أي من اكتفى الصلاة عليها فله قيراط واحد، ومن تبعها حتى فرغ منها فله قيراطان، أي قيراط آخر، قيراط آخر مع القيراط الأول. وليس معنى ذلك أن الاتباع له قيراطان والصلاة عليها لها قيراط، فتكون كم؟ ثلاثة، صح؟ ثلاثة قراريط. لا، ليس معنى هذا، معنى ذلك إنما هي قيراطان للاثنين. طيب. الشيخ عبد المحسن العباد جزاه الله تعالى الى دي dans certaines narrations de hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exposé la taille et la dimension justement d'un qirat. C'est quoi un qirat? Il a dit que un qirat était équivalent à la montagne de Uhud. Donc celui qui prie sur le mort, qui assiste à la prière funéraire, sa récompense, c'est quoi? Elle est équivalente à la montagne de Uhud. D'accord? Donc c'est une chose qui, une récompense qui est énorme. Et les ulama, comme vous savez, ils disent que les œuvres, yawm al-qiyama, les hasanat, les bonnes œuvres, seront transformé en quelque chose de matériel. D'accord? Donc toi, lorsque, par exemple, tu obéis à tes parents, c'est une bonne action. Cette bonne action-là, yawm al-qiyama, elle sera matérialisée. Elle sera matérialisée. Et elle sera déposée sur la balance, le mizan. D'accord? Donc là, on voit le rapport entre ça et le fait qu'il est dit que al-qirat, c'est comme la montagne de Uhud. Donc attends-toi à ce que lorsque tu assistes à une prière funéraire, attends-toi, Inch'Allah, à avoir cette récompense-là sur ta balance. Jabal Uhud. D'accord? Donc là, la taille, c'est au niveau justement de l'immensité, de l'énormité de la récompense. Pour une prière. Donc cette prière-là, les frères, elle ne dure même pas 5 minutes. En général, c'est 5 minutes, pas plus. D'accord? Abu Daoud rahimahullah a rapporté le hadith d'Abi Huraira, mais dans une autre version, narration, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: celui qui suit le mort donc durant le cortège, etc., et il prie sur lui, il a donc un qirat. Donc ça, c'est celui qui a prié seulement. D'accord? Il a prié, il a un qirat. Alors que celui qui a prié puis il a attendu jusqu'à ce que le mort soit enterré sous terre, enterré, etc., lui il a deux qirat. D'accord? Donc il a en fait un qirat plus un qirat. Donc ça lui fait deux. D'accord? Il ne faut pas avoir une compréhension qui serait mauvaise de croire qu'il a deux qirat pour l'enterrement et un qirat pour la salat, ce qui fait trois qararit. Trois, non. C'est un et un. D'accord? Un pour la prière et un pour l'enterrement. C'est bon, Ikhwan?
الحمد لله. ثم يقول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم، وفي رواية وأن يكتب عليه كذلك. طيب، أخرجه مسلم عن جابر. والحديث يفيد تحريم تجصيص القبر، وذلك بأن يوضع عليه الجص، الجص البلاتخ، وهو الأبيض المعروف، وكذلك البناء عليه. هذا لا يجوز، البناء على القبر لا يجوز، لأن ذلك مما يميز هذا القبر عن غيره، فيعتقد فيه بعض الناس أن له خصوصية، فيفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى تعظيمه، وقد يفضي إلى الشرك، الله المستعان. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبر. فعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أخرجه مسلم. ويفيد الحديث أيضا تحريم القعود على القبر، وجاء في هذا حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. أخرجه مسلم. فالقعود على القبر فيه إهانة للميت، فيه إهانة للميت، وحرمة الميت في هذا كحرمة الحي، حرمة الميت في هذا كحرمة الحي. طيب. نعم. في تيروتير رحمه الله تعالى que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'on plâtre, que l'on recouvre les tombes de plâtre. D'accord ? Al-Jass, c'est ça, c'est le plâtre à la base. D'accord ? Vous connaissez tous ce que c'est. Donc il a interdit ça. Il a interdit également que l'on s'assoie dessus, sur la tombe. Il a interdit aussi que l'on construise dessus. Que l'on construise dessus. D'accord ? Et dans d'autres versions, il dit que l'on écrive dessus. Yuktaba alay. Et dans d'autres versions, que l'on marche dessus. Que l'on marche dessus aussi, sur la tombe. D'accord ? Donc le hadith rapporté par Muslim, selon Jabir ibn Abdullah. Donc le hadith nous apprend que le fait de plâtrer une tombe, mettre du plâtre sur la tombe, c'est interdit. D'accord ? Donc le plâtre, c'est la matière blanche, le matériau blanc que l'on connaît. Et également, il est interdit de construire dessus. Car cela va distinguer du coup certaines tombes par rapport à d'autres. Donc il y aura des tombes sur lesquelles il n'y aura aucune construction, rien du tout. Et d'autres sur lesquelles il y aura des constructions. Donc cela va créer des différences entre les tombes. D'accord ? Comme on le voit aujourd'hui, malheureusement chez certains musulmans, mais surtout chez les Nasara. Chez les Nasara, tu vas voir celui qui a, hein, qui a la plus grande de sépultures, tu rentres, on dirait c'est un appartement, le truc. Eh bien, ça veut dire que, voilà, c'est, hein, personne, c'était quelqu'un, quoi. Alors que celui dont la construction elle est petite, lui, il était pauvre, mais c'est... Voyez, Al-Muhim. Cela va amener justement à différencier certaines tombes des autres et faire croire à certaines personnes, surtout les ignorants, les gens de la masse, eh bien que certaines tombes auraient des spécificités, des particularités, que la personne qui est morte et qui est enterrée dans cette tombe-là, au-dessus de laquelle il y a un mausolée ou un cadavre, c'était quelqu'un de mashallah, un saint ou un wali, cela va amener à le glorifier. Le glorifier peut-être même à l'associer à Allah tabarak wa ta'ala dans la vocation ou autre. D'accord? C'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'on élève les tombes. Que l'on élève les tombes. Donc pas seulement construire dessus, mais qu'on les élève. Non, il faut laisser la tombe au niveau du sol, au niveau de la terre. D'accord? Qu'on est sûr qu'on fasse voir qu'il y a une tombe en mettant des pierres, etc., etc. Quitte à mettre une motte de terre par-dessus pour qu'on voie bien que c'est une tombe. Mais l'élever, non. D'accord? Abu al-Hayyaj al-Asadi, rahimahullah, a rapporté et il a dit: Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, m'a dit. Ne te chargerai pas de ce que m'a chargé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc là, il est en train de lui dire comme quoi il va lui donner une tâche que lui avait donnée à l'époque le messager sallallahu alayhi wa sallam. Allez. Il lui a dit de ne pas délaisser un timfel, c'est-à-dire une image, une effigie d'une créature dotée d'une âme, c'est-à-dire par exemple une statue animale, une statue humaine, à l'effigie humaine ou l'effigie animale, sans que tu ne la fasses disparaître. D'accord? Et également, tu ne devras pas délaisser une tombe qui est élevée, musharifan, sans la remettre au niveau du sol. Sans la remettre au niveau du sol. Donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait chargé Ali de cette mission-là, eh bien, Ali, il a chargé cet homme-là de la même mission. D'accord? Donc, on a dans ce hadith l'interdiction d'élever les tombes. D'élever les tombes. Non. Et également l'interdiction des images des créatures dotées d'une âme. D'ailleurs, le hadith également nous enseigne l'interdiction de s'asseoir sur les tombes. Comme l'a rapporté Abu Huraira, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: que vous vous asseyez sur de la braise, que vous vous asseyez sur de la braise, jusqu'à ce que vos vêtements soient brûlés et que cela atteigne votre peau, eh bien, cela est meilleur pour vous que vous vous asseyez sur la tombe ou sur une tombe. Subhanallah. Donc là, on voit l'interdiction formelle ici de s'asseoir sur une tombe. Donc s'asseoir sur une tombe revient donc logiquement à être irrespectueux envers le mort. De l'irrespect total envers le mort. Le fait de mépriser, de rabaisser la personne qui est enterrée, subhanallah. D'accord? Donc, comme le vivant, tu dois le respecter, le mort aussi, tu dois le respecter. D'accord? Et tu dois, lui donner du respect, d'accord? Et de ne pas le rabaisser à travers cet acte-là.
Même si la personne est méprisable de son vivant.
Même si elle est méprisable, il n'y a pas d'exception ici. Il n'y a pas d'exception. La yajouz, al-qu'udu ala al-qabr. Le fait de s'asseoir sur la tombe, c'est pas bien. Taïb.
Quel est l'interdiction concernant la tombe que tu veux dire? Quel est le péché? Mais aussi la personne, elle a enterré sa personne, la personne, elle a élevé tout ça. C'est interdit, ok. C'est quoi le péché?
C'est une désobéissance à Allah Ta'ala. C'est une désobéissance. T'as vu? Non. Mais le mort, lui, s'il n'a pas demandé à ce qu'on élève sa tombe, etc., lui rendra pas des comptes par rapport à ça. chacun son jugement. D'accord ? Lui, il n'est pas responsable de ce que font les gens après sa mort. Surtout si c'était quelqu'un de pieux, etc., etc., qui était sur la sunna. Mais si avant de mourir, il a dit aux gens, construisez-moi un mausolée, etc., etc., là, c'est autre chose. Là, oui, il sera responsable de ce qu'ils font après. Les chrétiens. Les chrétiens, là. Ça va.
D'être dans cet état-là plutôt que de faire ce péché-là. Est-ce que ça veut dire que Yom Kiyama ou en enfer, est-ce que ce péché-là il aura un châtiment supérieur à ce qui se déroule ou pas?
Ça montre la gravité. Ça montre la gravité de cet acte-là. D'ailleurs. La gravité et l'insistance. Là, il insiste le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la gravité de ce péché-là. Les péchés, comme tu sais, ne sont pas tous au même niveau. Il y a les Sarah, il y a le Kaber. D'ailleurs. Donc là, ça montre juste la gravité du péché et le fait de faire ça.
Le fait d'aplanir le temple et de détruire les fusils, ça n'incombe qu'à ceux qui sont ordonnés par le gouvernement.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. La destruction des mausolées. Toi, tu ne peux pas aller au bled et tu vas commencer à détruire les mausolées parce que le prophète il a dit ça à Ali, qu'Ali il a dit ça à Abul Hayyaj. Donc Ali, quand il a dit Abul Hayyaj, Ali il était gouverneur à l'époque quand il a dit Abul Hayyaj. Ça y est,
je n'ai pas compris de ne pas écrire sur une tombe. Ça c'est-à-dire que la pierre tombale, il faut pas qu'il y en ait. La pierre tombale avec le nom de la personne qui est enterrée ici.
Pas de pierre tombale. Donc s'il n'y a pas de pierre tombale, il n'y aura pas d'écriture. Ni pierre tombale, ni planche de bois, ni rien du tout.
Les tombes sont anonymes.
Anonymes. Quand tu vas au cimetière des Sahaba, c'est totalement anonyme. Pourtant, c'est les meilleures créatures après les prophètes, les messagers. Sahaba. Tu ne sais pas qui est enterré. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Pour ceux qui sont déjà allés à Mecca, au Baqir, ils l'ont vu ça.
Et si on enterre un proche parent et qu'on ne met pas de nom sur la pierre tombale, après avec le temps et tout ça, je veux dire, comment on fait pour reconnaître la tombe
Tu peux mettre quelque chose, tu vois, un signe, ou une pierre que tu peux reconnaître de loin, quelque chose.
Un bâton, des fois, avec juste un bâton.
Un truc, un signe que tu peux reconnaître. Mais en général, ça va, c'est pas. Les cimetières, elles sont pas non plus. Tu vois? C'est pas comme un Mecca où le cimetière il est immense. Le cimetière en général, tu arrives à te situer quand même. En tout cas, moi je sais qu'à Vitrolles par exemple, t'as un cimetière qui est assez grand, mais on arrive à se repérer, on arrive à savoir qui était enterré à tel ou tel endroit. Même s'il y a des noms de partout en vérité. Il y a des noms de partout.
Tu
peux
repérer sur les noms à
côté. Concrètement, en cas de musulman de Saint-Pierre, ça
c'est pas légiféré. C'est pas légiféré. D'ailleurs, Idan, lahidou, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, naha an yujassas al-qabr, wa an yubna alay, wa an كذلك يكتب عليه وأن يوطى عليه حيث جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النهي بينما يكون سببا للغلو فيه وبين يكون سببا لامتهانه فالغلو في الكتابة والبناء والتجصيص والامتهان يكون في ماذا؟ الوضع أو القعود مثلا. طيب، فهذا من أجل أن يعامل الناس أهل القبور معاملة وسطا لا غلو فيها ولا تفريط. طيب، donc vous remarquerez ici, comme l'a dit le cheikh Ibn Uthaymin رحمه الله, que le prophète صلى الله عليه وسلم il a interdit Donc on l'a vu, hein, le fait de plâtrer la tombe, le fait d'écrire dessus, le fait de l'élever, le fait de s'asseoir, le fait de marcher dessus également. D'ailleurs, donc ici, vous remarquerez qu'il a réuni le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre l'interdiction de l'exagération envers le mort et l'interdiction de l'irrespect envers le mort. Donc l'exagération, en vérité, elle se fait à travers le fait d'élever la tombe, d'écrire sur la tombe, plâtrer la tombe, construire sur la tombe, etc. Ça, c'est l'exagération. Mais lorsqu'il est interdit de s'asseoir dessus ou de marcher dessus, ça, c'est par rapport à l'irrespect envers le mort. D'accord ? Donc, on a les deux extrêmes ici. L'exagération pour le mort et l'irrespect envers le mort. Et ça, c'est pour que les musulmans se comportent avec les morts, hein, de la manière qui est le juste milieu, qui se trouve entre l'exagération et la négligence ou l'irrespect. D'accord ? Donc la sunna, mes frères, elle est faite pour ça. Elle est faite pour éviter de tomber dans l'extrémisme, dans les deux extrêmes, que ce soit l'extrême exagération ou l'extrême négligence. Donc le juste milieu, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'enterrer le mort, de surélever un peu la terre qu'on voit, yani, qu'il y a une tombe, de mettre des pierres pour bien délimiter la tombe, c'est tout. D'accord ? Et cela évitera beaucoup, beaucoup de bid'a, énormément de bid'a. Et aussi évitera le shirk, surtout le shirk. D'accord ? Non. Est-ce que c'est bon, les frères ? ثم يقول وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود والحاكم وصححه هذا الحديث أخرجه أبو داود والحاكم عن عثمان بن عفان وقال النووي في الخلاصة إسناده حسن puis dit l'auteur Himamallah Ta'ala que lorsque l'enterrement du mort est terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se tenir, de rester debout, donc devant la tombe. Et il disait, demandez pardon à votre frère, qui est mort, yani. Demandez pardon à votre frère, et demandez pour lui le raffermissement, التثبيت, le raffermissement, c'est-à-dire, pendant quoi ? Les questions qui vont lui être posées par les deux anges. C'est pour ça qu'il dit, فَإِنَّهُ الْأَنَا يُسْأَلْ car en ce moment, il est en train d'être interrogé. D'accord ? Donc la sunna, c'est que après l'enterrement, une fois que l'enterrement est terminé, tout de suite après, tu invoques pour le mort. Tu invoques pour le mort. Surtout, surtout, et tathbit. Qu'Allah Jalla wa Ala le raffermisse durant cette interrogation. D'accord ? Donc le hadith, il est authentique. Comme l'a dit l'imam al-Nawawi, et on le trouve dans Sunan Abi Daoud, également chez Al-Hakim. Et il est rapporté par Uthman ibn Affan. Le maqsoud min dhalik anna kull wahid yad'u bi nafsi. Kull wahid yad'u bi nafsi. Tayeb. La an yakuna hunak wahid yad'u wa yu'ammin al-baqi al-baqun. La. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقول إني سأدعو فأمنوا لا إنما قال أدعو لأخيكم أدعو لأخيكم معنى هذا أن كل واحد يدعو من قبل نفسه يدعو من قبل نفسه طيب وكذلك إذا كان الناس كثيرين، لأن الدعاء المفروض أن يفعل أمام القبر ومستقبل القبر، هذا هو السنة، تدعو للميت بعد دفنه مستقبل القبر لا القبلة. ليس شرطا أن تستقبل القبلة في هذا الدعاء، بل السنة أنت أمام القبر وتدعو طيب للميت. فإذا كان الناس كثيرين فلك أن تدعو أينما كنت، أينما كنت ولو لم تكن مباشرا للقبر طيب. وهذا فيه تنبيه للناس أن يدعوا للميت، لأن ربما يكون بعضهم غافلا أو ساهيا أو ناسيا فلم يدعو للميت، فهذا فيه تنبيه. Donc l'objectif, l'intention ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam est que chacun invoque lui-même de son côté pour le mort. Pas comme font certains dans certains endroits ou certains pays ou chez certaines communautés. Il y en a un qui invoque et les autres disent Amin derrière. D'accord ? Il y en a un qui va faire des dua comme s'il était l'imam, يعني, et les autres derrière disent Amin. هذا غير مشروع. Pire, des fois carrément ils font des invocations mais tous ensemble. Donc ils ont une liste de dua, d'accord, et ils vont les faire d'une seule voix, yani, tous ensemble. Là aussi c'est pas légiféré. Ce qui est légiféré c'est que chacun invoque pour le mort de son côté. Alhamdoulilah. Ça y est. Non. Parce que le prophète, il n'a pas dit « Je vais invoquer et dites Amin après moi. » Il a dit « Invoquez pour votre frère. » D'accord ? Il a dit « Invoquez pour votre frère. » Donc chacun doit invoquer pour son frère mort là où il est, de son côté, pour lui-même, yani, entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala, pour son frère. Et ce qui est légiféré également, c'est d'invoquer yani, près de la tombe, devant la tombe, près de la tombe, et ce, même si tu es tourné vers la tombe. D'accord ? Donc, le fait de se tourner vers le Qibla, à ce moment-là, ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une sunna à ce moment-là. Au contraire, la sunna à ce moment-là, c'est d'invoquer pour le mort comme tu es. Même si tu es devant la tombe, tu invoques pour le mort. D'accord ? Donc, certains sont tombés dans l'extrémisme en obligeant les gens à se tourner vers le Qibla. Ça, c'est, ça se fait, même jusqu'à aujourd'hui, même chez parmi les frères qui se disent étant sur le manhaj sahih, qui obligent et qui interdisent les gens d'invoquer pour le mort en étant tournés vers la tombe. Il les oblige à se tourner vers le Qibla. Ça, c'est de l'ignorance, en vérité. Ça, c'est de l'ignorance. La sunna est que tu invoques pour le mort comme tu es. En général, lorsque tu l'enterres, tu es vers la tombe. Tu n'es pas tourné vers autre part que la tombe. D'accord ? Et près de la tombe. Mais si les gens présents sont trop nombreux, bien sûr, tu invoques là où tu es. Même si tu es loin de la tombe, tu invoques pour le mort là où tu es. D'accord ? Même si tu es en train de marcher, que les gens sont en train de marcher, et donc tu es bousculé et que tu es obligé de partir, tu pars en même temps, tu invoques. Alhamdoulilah. Il n'y a pas de mal. La haraj. Et donc ce hadith-là aussi, il prête l'attention à, justement à invoquer pour le mort. Parce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui viennent, qui enterrent le mort, et qui n'invoquent même pas pour le mort. Ils vont l'enterrer, khlas, après ils rentrent chez eux, et c'est tout. D'accord ? Donc cela nous rappelle qu'il est important que juste après l'enterrement, qu'on invoque pour lui. Surtout pour qu'Allah le raffermisse durant les trois questions qui seront posées par les deux anges. D'accord ? D'accord ? Al-tathbit wa yani al-maghfira bi tab'a. Et le pardon, bien sûr.
Juste après l'enterrement, on les reprend, bien sûr.
Ça marche bien.
Ils sont combien là ?
Ils sont deux. Et ça, le deuxième, c'est, je ne sais pas c'est qui le deuxième. Allez. نعم ثم يقول ويستحب تعزية المصاب بالميت يستحب تعزية المصاب بالميت التعزية ما هي تعزية هي تسلية المصاب أي حثه على الصبر وهي مستحبة لحديث عمرو بن حزم مرفوعا ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة أخرجه ابن ماجه وقال البصيري في الزوائد هذا إسناد فيه ما قال فيه ما قال طيب ولما فيها من جبر لخاطر المسلم فهي تقوي الأخوة الدينية بين المسلمين ويقول في التعزية ما يحصل به تسلية المصاب ومن الوارد في ذلك حديث أسامة ابن زيد قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قيل هي زينب أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا أي ابن لزينب توفي فأرسلت إلى رسول صلى الله عليه وسلم رسولا طيب أن ابنه قد مات أو ابنها عفوا قد مات فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر و والتحتسب أخرجه البخاري ومسلم. Puis dit le cheikh, donc après avoir mentionné ce qui est recommandé, etc. Il dit, il est recommandé également de, comment on dit, les condoléances, non, de faire les condoléances à celui qui est touché par la perte d'un proche. D'accord? On appelle en arabe un terzia. Un terzia, c'est quoi? C'est le fait de réconforter la personne. Réconforter le proche du défunt. Et de l'encourager à patienter. C'est ça, un terzia. D'accord? C'est pas juste tu viens, tu bois un café, après tu rentres chez toi. Comme ils font aujourd'hui. Ils vont chez la personne, ils mangent, ils se cassent le ventre, après ils rentrent chez eux. C'est bon, pas? Et en plus, ils y vont, ils rigolent. Ils parlent avec les invités, ils rigolent, après ils rentrent chez eux. Ils ont participé à un repas là. Et en plus, ça c'est. Ah, mukhalif sunna en vérité. En vérité, ça contredit la sunna. Parce que la sunna en vérité, ce sont les proches de la famille qui doivent faire à manger pour la famille du défunt. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est la famille du défunt qui va cuisiner pour les gens. Et les gens, ils viennent, ils mangent, après ils partent. Et avant les condoléances, il se faisait yani, lorsque la personne croisait, lorsque tu croises le proche, lorsque tu le croises à la mosquée, lorsque tu le croises au marché, c'est là que tu vas aller passer les condoléances. C'était pas genre rendez-vous à tel endroit et on passe la soirée. Non, c'est pas ça. D'accord. Allez.
Non. J'ai lu un hadith où le prophète me demande d'invoquer pour le mort le temps d'un égorgement de chameau.
Je ne connais pas ça. Donc cela est recommandé, notamment en vertu du hadith d'Amr ibn Hazm, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas un croyant qui réconforte et passe ses condoléances à son frère qui a été atteint par un malheur sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'habille des vêtements de la dignité le jour de la résurrection. Donc certains ulama ils ont expliqué que ce sont des vêtements qu'Allah jalla wa ala donnera à la personne qui a fait ça et qui vont la rendre yani, digne et noble. D'accord? Mais comme l'a dit Al-Busayri rahimahullah ta'ala, il a dit c'est la chaîne de transmission et yani, elle est à revoir. Elle est à revoir. Al-Muhim. Dans tous les cas, le fait de passer ses condoléances à la personne, eh bien ça va permettre à la réconforter, à la consoler. D'accord? À la consoler. Et cela va également fortifier la fraternité religieuse entre les musulmans. D'accord? Na'am. Et ça sert aussi à faire un rappel aussi à la personne et à lui dire de patienter. Que dans tous les cas, c'est Allah tabarak wa ta'ala qui a décrété cela. Donc il faut patienter et accepter le sort de chaque individu. Si c'est quelqu'un qui ne combat pas l'islam, tu as le droit. Sans demander rahma pour le mort, sans demander le pardon pour le mort, car tu ne peux pas s'il est mort sur le kufr. Mais si tu as un voisin kafir qui a perdu quelqu'un, tu peux y aller pour leur dire de patienter. Pour les consoler. Juste pour les consoler, pour qu'ils patientent. D'accord? C'est permis.
Par rapport à ce que tu dis, comme s'il y a deux jours, il y en a qui prennent des salles, qui font des repas, qui disent, voilà. C'est. Tu veux y aller ou pas?
Bien sûr. Bien sûr, tu ne vas pas. Tu ne vas pas. Donc toi, tu passes les condoléances. Tu passes les condoléances de ton côté. D'accord? De ton côté. Par téléphone, ou tu passes à un moment où il n'y aura personne. Tu passes un moment où il n'y aura personne, ou si tu sais que tu vas croiser la personne, eh ben, tu attends de la croiser à tel ou tel endroit. À la mosquée, tu sais que tu vas croiser la personne à la mosquée. Eh ben, tu attends d'être à la mosquée, tu lui passes tes condoléances. En général, les hommes, ils sont à la mosquée. Hein, je veux dire, tu vois. Donc forcément, les hommes, tu vas les croiser à la mosquée de la famille du défunt. À part s'ils ne prient pas, là, il y a un problème. Mais s'ils prient, tu les croises à la mosquée. C'est vrai ou pas?
Et même quand c'est la famille proche.
Même quand c'est la famille proche, tu ne dois pas les aider dans ça, dans cette moukha à la fin. C'est une moukha à la fin.
Non, c'est bon. Et d'autres, notre ami, c'est pas pareil. Parce que si, par exemple, on ne répond pas à un papa, il risque de se blesser grave. Et ça peut être encore le plus grand mal. Parce que les chiens, on peut y aller quand même, tu vois. Parce que c'est. On va dire, c'est coutumier, genre. C'est vraiment, ils vont violence mixée.
Vas-y quand il n'y a personne, sinon. Vas-y quand il n'y a personne.
Le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un. Ouais. Trois jours, il y a du monde.
Et ben, soit tu y vas avant, soit tu y vas après. Ou soit tu les appelles et tu parles avec eux. Parle avec eux. Au téléphone, tu dis voilà, tu passes tes condoléances par téléphone. D'accord? Et en même temps, tu leur expliques, tu ne pourrais pas venir parce que la sunna, c'est pas ça. D'accord? Ou alors, tu leur fais à manger. Tu fais à manger et tu leur amènes. Tu fais à manger et tu leur amènes. Et là, tu leur expliques que tu ne peux pas rester parce que c'est contraire à la sunna. D'accord? Non. Oh, c'est pas. هذه إن شاء الله هذه
أشهد أن لا إله
termine la traduction, inshallah. Donc nous avons le hadith à propos de la ta'ziya de Usama ibn Zayd qui a dit que la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Zaynab ici, le jour où elle a perdu son fils, elle a envoyé un messager au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que son petit-fils, le petit-fils du prophète, était décédé. Et là, le prophète de renvoyer le messager, de lui dire de transmettre le salam et de transmettre sa parole. Certes, Allah jalla wa ala, à lui appartient tout ce qu'il prend. Et à lui appartient tout ce qu'il donne. Et toute chose auprès de lui a un terme fixe, prédéterminé. D'accord ? فَالْتَصْبِرْ وَالْتَحْتَسِ. Donc il dit à sa fille, patiente, tu dois patienter et tu dois espérer la récompense d'Allah. Donc cette dua-là, il est légiféré de la dire lorsque tu passes tes condoléances. D'accord ? إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذْ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى فَالْتَصْبِرْ وَالْتَحْتَسِبْ. Donc le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. C'est bon les frères? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.